Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette nouvelle conférence et de notre naissance, la première conférence de cette année 2013. Et comme nous sommes le 31 janvier, il paraît que nous avons le droit jusqu'à la fin janvier de présenter ces vœux. Pour ceux que je n'ai pas vus, permettez-moi de vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette année 2013. Une année 2013 que nous commençons sous les meilleurs auspices, j'allais dire. En tout cas, nous commençons grâce à M. Yves-Marie Rosé, que je remercie, que nous commençons par cette conférence qui va nous présenter plus d'un millénaire d'histoire de l'église Saint-Similien. Alors, notre naissance nous souhaitions proposer cette conférence dès le début de cette année pour montrer également la démarche que vous avez entreprise au niveau du groupe de quartier Saint-Félix au Pavé, qui nous semblait tout à fait remarquable, exemplaire, et nous souhaitions justement la soutenir puisque ça fait partie, je dirais, du mode que souhaite développer notre naissance, c'est-à-dire montrer comme les habitants de la ville peuvent aussi s'approprier leur patrimoine, et ce qui fait vivre le patrimoine de la ville, ce sont ses habitants, ce sont leurs habitants. Nous aurons l'occasion d'en parler à l'occasion de nos prochaines conférences, mais je crois qu'il n'y a pas eu d'exemple aussi important ces dernières années que celui que vous avez mené justement au sein du conseil de quartier au pavé Saint-Félix. D'ailleurs, vous nous offrez également le 16 février, il reste encore quelques places libres, je crois, vous nous offrez également une visite guidée. Vous voyez que ça va être une conférence à tiroir, si je puis dire. D'abord, on va avoir 5 églises successives, on n'en connaissait qu'une, moi je n'en connaissais qu'une, mais vous allez nous montrer 5 églises successives. Et en plus, vous nous proposez effectivement à la fois une conférence ce soir pour prendre le temps de découvrir justement l'édifice Saint-Similien, mais vous nous proposerez le 16 février de découvrir le quartier autour de Saint-Similien. Puisqu'effectivement, notre naissance organise tous les mois au moins une visite guidée et au moins une conférence. Nous alternons les thèmes historiques et les thèmes plus techniques, puisque notre naissance, cette année, comme toutes les autres années, souhaite continuer à créer ces ponts entre les professionnels et les passionnés, entre les habitants et le patrimoine de la ville de Nantes. Je ne serai pas plus long pour cette introduction, car j'avoue que je suis moi-même impatient de découvrir tout ce que va nous indiquer, tout ce que va nous raconter Yves-Marie Rosé. Je vous précise également qu'une synthèse de la conférence que va nous donner M. Rosé dans les quelques minutes qui suivent, qu'une synthèse sera publiée dans le prochain numéro de notre lettre. Je cède donc tout de suite la parole à M. Rosé. Peut-être puis-je également rappeler qu'il y a des documents de disponibles et qu'ils sont là faits pour vous et vous pouvez vous servir. Merci encore, oui. M. Rosé, et je vous cède la parole.
Laissons-nous compter Saint-Similien, et vous avez donc vu cette église orpheline de clocher et vue depuis la tour de Bretagne, donc elle a été prise en photo. Alors, on va parler du patrimoine de cette église. On va d'abord une première partie qui concerne, on va voir les 5 églises qui se sont succédées. Et c'est cette partie-là qui est dans la revue de notre naissance à paraître demain. Ensuite, nous découvrirons, pour ceux qui ne connaissent pas, cette grande église sans clocher, qui a un certain charme, ses vitraux et ses sculptures. Et puis après, nous nous intéresserons aux traces des églises antérieures qu'on peut encore voir et connaître aujourd'hui. Et puis, pour terminer, un patrimoine, ce n'est pas seulement des pierres qui sont empilées, c'est aussi des gens qui ont vécu, c'est des gens qui se sont investis, c'est des gens qui ont construit, c'est des architectes qui ont travaillé. Donc, on verra un peu comment la vie paroissiale s'est passée pendant 5 siècles, un peu moins longtemps que les églises, je vous expliquerai pourquoi. 5 églises se sont succédées. Donc c'est la 5e que l'on a vue tout à l'heure sur la photo. Il y a d'abord eu, ce n'est pas une église, un oratoire et on va l'expliquer après, hein, mais pour vous situer, il y a eu un oratoire sur la tombe du saint, de Saint-Similien, au 5e siècle, puis une basilique mérovingienne au 6e siècle, puis une rénovation au 10e siècle, après la mise à sac de la ville par les Normands, par les Vikings, ça a duré pratiquement 100 ans. Ils logeaient dans l'île de Biesse, et voilà, ils rasaient partout, et il n'y a pas eu que Saint-Similien. Toute la ville était à sac. Ensuite, on parlera d'un agrandissement conséquent et d'un clocher qui a été fait au 15e siècle. Puis, au début du 19e siècle, on a encore agrandi et on a changé complètement le style avec des travaux un peu fous pour faire un style un peu grec. On va voir ça. Et puis la cinquième, eh bien, c'est celle que l'on connaît aujourd'hui, qui a été reconstruite totalement, hein, en style néo-gothique, donc à la fin du 19e siècle. Voilà. Donc, alors, l'oratoire. Donc, église Saint-Similien. Alors, Saint-Similien est un évêque, et d'après la tradition, c'est le troisième évêque de Nantes. Dans des écrits, un martyrologe des années 592, c'est la première fois, enfin, il est marqué en troisième position. Donc, c'est vraiment une tradition. Parce que malheureusement, Saint-Similien n'est pas comme Saint-Hilaire de Poitiers, Saint-Irénée, à avoir laissé des documents, ou comme Martin de Tours, à avoir quelqu'un qui a écrit sa vie, qui a raconté ses fêtes, on n'a aucun écrit sur Saint-Similien. Et la première mention qui est faite est du 6e siècle par justement Grégoire de Tours, un évêque qui est considéré comme l'historien des Francs et qui parle d'un fait dont on va parler dans la diapositive suivante. Par contre, ce que l'on a, c'est comme... Il y a un témoignage qui a été laissé par les pierres. La tombe où il s'est fait enterrer était en extrémité d'un cimetière romain. À l'époque, on les mettait toujours en dehors de la ville. Des chrétiens se sont fait enterrer près de lui, si bien que l'évêque Léon, 50 ans après, a mis un peu d'ordre et a fait une petite chapelle commémorative comme celle que l'on trouve quand on rentre dans le cimetière de Miséricorde, vous savez, on voit ces chapelles. Bon, on n'a aucune trace, mais voilà, c'est ce que disent les gens qui ont écrit au XVIIIe, XIXe siècle. Et par contre, ce qu'on sait, c'est que l'église est sur l'emplacement d'une construction romaine. Était-ce une villa? Était-ce une zone urbaine? Les archéologues nantais... disent qu'il y a eu quelque chose, parce qu'on a retrouvé des pierres de thermes, donc des traces de bains. Voilà. Donc, pas de témoignage écrit, mais un témoignage laissé par les pierres, par les gens qui sont venus se faire enterrer autour, et on va en reparler parce qu'on a tout retrouvé, tout ça. Alors... Quand vous regardez le chapiteau du portail nord de la cathédrale, celui qui est sur la façade d'entrée, hein, je ne parle pas dans la nef, mais sur l'entrée, et qui donne sur la préfecture. Vous avez donc la porte Saint-Donatien-Saint-Rogatien. Vous avez la porte est séparée en deux. Il y a un gros meneau en pierre. Il y a un gros meneau en pierre ici. Et puis vous avez en haut, avant les vitraux, là, le fenestrage, vous avez cette espèce de sculpture et qui représente une procession de gens, de paroissiens, de gens de de la basilique Saint-Donatien et d'autres de la basilique Saint-Similien. Alors, c'est donc Grégoire de Tours qui mentionne cet événement et qui dit « Au temps de Clovis ». Donc Clovis, c'est 480-511, on va dire en gros vers l'année 500. Des barbares assiégeaient Nantes depuis 2 mois, quand à minuit, 2 processions d'hommes habillés de blanc, sortent l'une de la basilique des martyrs Donatien et Rogatien et l'autre de la basilique du grand confesseur, l'évêque Similien. Ces deux colonnes se joignent, se saluent et prient ensemble, puis s'en retournent chacune dans leur église. L'effet fut immédiat sur les barbares, qui prirent la fuite et levèrent le siège. Le chef des barbares, Chilion, fut touché intérieurement et se fit baptiser. Voilà ce que raconte Grégoire de Tours. Quelle est la part de légende d'embellissement? On ne sait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il mentionne bien deux basiliques qui, effectivement, sont... Alors, basilique, c'est au sens romain du terme. À l'époque, une basilique... Pour les Romains, c'est un bâtiment rectangulaire avec une abside où on met le juge, le prélat, l'homme important. Donc on va voir que notre première église a une forme de basilique à ce sens-là. Ce n'est pas basilique au sens, aujourd'hui dans l'église, d'une église qui a une prédominance, comme on dit, la basilique Saint-Nicolas ou effectivement la basilique Saint-Donatien. Donc la basilique du grand confesseur, l'évêque Similien. Alors confesseur, ça veut dire quelqu'un qui partageait sa foi, qui prenait des risques pour annoncer sa foi, mais ça veut dire aussi qu'il n'était pas martyr. Voilà. Donc ce n'est pas un martyr, c'est quelqu'un, un évêque qui a confessé sa foi. Voilà. Alors, cette basilique mérovingienne, vous voyez le plan ici, donc un rectangle et une abside plus petite. Le tombeau était dedans, où était-il exactement, on ne sait pas trop, et... Il y a un puits. Sa position est exacte, parce que le puits existe toujours. Donc, 150 ans après la mort de Similien, les chrétiens continuent de se faire enterrer auprès du saint. Et là, l'évêque Léon fait construire une basilique, donc ce bâtiment. Alors, on en reparlera après, mais il y a eu des restes retrouvés en 1894, donc à la fin du 19e siècle, quand on a fait l'église actuelle, on a trouvé des briques décoratives et des sarcophages qui sont tous au musée, enfin, la plupart sont au musée d'Aubray, donc on sait ce qu'on a trouvé. Alors, le puits, probablement antérieur, se trouve inclus. On pense que le puits était dans la partie de la maison romaine qui était là et qu'il y est resté. Le puits n'a pas de fonction proprement liturgique, si ce n'est que la facilité de tirer de l'eau. Les dimensions de l'église, 24 par 9 mètres. Vous voyez, c'est quand même assez grand. Et l'abside, un diamètre de 4 mètres. Voilà. Alors, pour ceux qui, je vous dirai enfin, en fin de parcours, quand l'église est ouverte, parce que malheureusement, elle n'est pas ouverte autant qu'on le souhaiterait, depuis la journée du patrimoine, puisque ça tient le coup, on le laisse, un jour on le retirera, on a mis au sol des bandes blanches qui symbolisent l'intérieur et l'extérieur du mur. Alors il y a une partie qu'on ne voit pas parce que c'est sur le parvis, mais dans l'église, on voit bien où était cette église. Mais de toute façon, je vais vous donner un plan tout à l'heure où vous verrez comment les églises s'empilaient, entre guillemets, ça va être clair. Alors, au Xe siècle, donc là, il y a des Saxons et qui ont aussi fait beaucoup de dégâts. On n'a pas beaucoup de... Non, les Vikings, pardon. Les Saxons, c'était à l'époque de Clovis. Là, c'est les Vikings. Alors, en 843, ils ont attaqué la ville. Ils ont tué l'évêque en plein office avec tous les chrétiens qui étaient dedans. Avec la légende de l'évêque Goar, qui est maintenant Saint Goar, qui serait parti avec la tête sous le bras, qui aurait pris le bateau pour aller jusqu'à Angers, voilà. Mais ils ont mis vraiment à sac. Alors, une fois que Barbe Torte les a renvoyés, les gens qui pratiquaient cette église, qui n'était probablement pas une paroisse, on ne sait pas quand c'est devenu paroisse, mais on demandait à l'évêque de la reconstruire, et l'évêque s'est déchargé sur ses chanoines. Donc les chanoines aurait fait même une quête, il y aurait eu des miracles pendant cette quête, et du coup, ça s'est reconstruit assez vite. L'abside a été agrandie, et on a retrouvé des traces quand on a fait les fouilles qu'on a creusées à la fin du siècle, du 19e siècle. Voilà. Là, je n'ai pas de photos à vous montrer parce qu'on n'a pas grand-chose. Alors, par contre, on arrive à une autre époque, donc, vous voyez, 10e siècle, 5 siècles après, vers les années 1450, il y a eu un agrandissement de l'église significatif. Alors, on a fait deux bas-côtés, vous voyez. Alors, ça, c'est un peu les traces de l'église ancienne. Ils ont, souvent, on reconstruisait sur les murs, hein, on ne refaisait pas tout. Mais ils l'ont allongé et ils ont fait deux côtés en croix et avec des arcades de 6 mètres à peu près. Deux arcades ici pour que d'ici on puisse voir là. Il devait y avoir d'autres hôtels, mais on n'a pas d'informations. Puis il devait y avoir un hôtel central, bien sûr, par ici. Il y avait des bancs, il y avait les bancs des notables qui étaient là, les stalles. Et il y avait une sortie sur la place, qui est aujourd'hui la place Saint-Siminien, qui donnait sur le cimetière, le vieux cimetière, et un clocher. Donc ils ont fait un clocher. Et par contre, lui, on a des photos. Là, on commence à avoir un peu de documentation. Alors, le clocher était comme haut de 34 mètres et il y avait dedans quatre cloches qui sonnaient. Voilà. Alors, il y a eu, en 1703, il y a eu un orgue, pour l'époque, un grand orgue de 9 jeux, augmenté 35 ans plus tard de 6 autres jeux. Et là, on a des descriptions. Là on a des documents. Voilà. Alors, voilà une image très intéressante qui est du musée d'Aubré, donc, qui m'ont donné l'autorisation de vous montrer, et on mentionnera les auteurs. Donc, elle est un peu palote, mais vous voyez, c'est pris de la rue. Alors, j'ai mis ici le plan. Pour ceux qui connaissent le plan Caco, c'est un plan qui a été fait en 1757 et qui est d'une précision extraordinaire. Mais comme il est gravé, il est tout en noir. Alors, quand c'est des petits points comme ça, ça veut dire des maisons. Et puis quand c'est des jardins, ben, vous voyez, les jardins avec les arbres, avec tout ça. Ce n'est pas toujours très facile à lire parce que c'est monochrome, c'est tout en noir. Et j'ai mis la flèche à peu près où était le dessinateur, le peintre, qui l'a faite. Donc, on voit cette petite église et on voit son clocher qui était assez grand, 34 mètres. Et on verra après des photos de ce clocher avant qu'il soit démoli. C'est tout à fait ça, avec une petite tourelle ici avec l'escalier. Donc, il y avait une entrée pour rentrer dans le clocher. L'entrée, une des entrées de l'église, il y en avait d'autres sur le côté, mais qu'on ne voit pas sur la gravure. Et puis, on voit quand même qu'on avait une fenêtre au-dessus de la porte. Hein, de style gothique, donc 1458. Et si on regarde de près, on s'aperçoit qu'ici, il y a des motifs flamboyants. Donc, c'est tout à fait l'époque, 1450, c'est en pleine époque où la pierre laissait la place aux vitraux et avec des voilà, comme on retrouve. C'est à la même époque que la façade de la cathédrale. Le reste a suivi, a mis des siècles et des siècles pour venir. Mais voilà, on retrouve le même style. Donc, alors, vous voyez, on retrouve ici la place Saint-Similien. Il y avait un cimetière en face, une petite chapelle, la chapelle Saint-Symphorien. Alors, bon, avant la Révolution, c'était une paroisse, il n'y a pas de problème. On retrouve le plan à peu près, mais le plan fait tout Nantes avec toutes les îles. C'est très, très détaillé. Donc, il y a des maisons ici. Et alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que la petite maison qu'on voit ici, c'est une maison, eh bien, on la voit ici. Donc, c'est vraiment un témoignage qui me semble très, très intéressant parce que très réaliste. Alors, une autre image que vous avez peut-être dû voir, on la voit souvent pour parler de l'herbe, pour parler des tanneurs, pour parler des avandières. C'est ce monsieur-là, Peter Hawke, qui en 1937 a fait une gravure. Et on voit le clocher de l'église Saint-Similien qui domine les bords de l'herbe, alors qu'il n'était pas du tout, il n'y avait pas de quai. Ça arrivait comme ça. Euh, Il y avait le niveau qui montait un peu, qui descendait un peu, les lavandières, les tanneurs qui étaient là-dedans. Voilà, on faisait sécher le linge un peu partout. Elle est très connue et elle aussi, elle vient du musée d'Aubry.